Kevin Fu.
Alors, Kev, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait un podcast?
Ça fait probablement un minimum de 6 mois.
On est rendu déjà à 6 mois.
Puis ça doit être à peu près dans le même temps que tu as ouvert ton bar?
Ouais, on a fait le dernier podcast sur le bar.
Ouais, parce que là, c'était l'ouverture, parce qu'avec toutes les mesures sanitaires qui se sont enlevées pour être capable d'avoir la pleine capacité au bar.
Fait que c'est depuis à peu près le mois de mars qu'on a fait le dernier podcast. Désolé. Manque de temps de mon côté. Et Kev, qu'est-ce qui s'est passé durant ton été? Je pense que tu as été aussi un petit peu occupé.
Ben, j'ai le droit à la grippe, j'ai le droit au rhume, j'ai le droit à la COVID. J'ai le droit à une semaine au Mexique. Et disons que je pense que j'ai eu la COVID longue et que ça m'a juste fait que je suis très, très épuisé en haut et en bas continuellement. Fait que malheureusement, même mon étape de bière de production a comme un peu pris un bon coup. J'ai donné un coup de main au début à Fitz pour partir de quand il m'appelait. Il dit « Kev, il manque de bière. » C'est comme « OK, c'est bon, je m'en viens. » Je suis venu à quelques reprises. Maintenant, Fitz a un bras droit disponible.
Ouais, je suis rendu avec un brasseur. Fait que...
Parce que Fitz ne peut pas être partout, malgré que tout le monde voudrait qu'il soit partout. Mais quand tu as plus qu'une compagnie, malheureusement, ça tire énormément de jus.
Ouais, ça tire un peu de jus. Puis en plus de ça, on va dire... On va le dire comme on va dire. Je vais prendre à placer le micro en même temps. Je suis vraiment désolé pour le début du podcast. Écoute, mon équipement est plus loin. On n'est pas placé comme d'habitude. Mais ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde comme Kev que je pense qui ont brassé beaucoup moins cet été. Rénovation. Aussi le fait que la COVID est encore là, mais beaucoup moins présente dans le milieu.
Fait que
les festivals. Mais ici, il y a des festivals de bière qui ont recommencé. Il y a les voyages qui ont recommencé, il y a beaucoup de choses qui ont recommencé. Fait que le monde a mis un petit peu la passion de brassage de côté pour reprendre une vie normale, qu'on pourrait dire, mais peut-être un peu plus excessif que d'habitude.
Ben, je pense qu'on a beaucoup à rattraper du monde qu'on n'a pas vu, des événements qu'on n'a pas vu, tout le kit. Puis à ce que je peux voir présentement, ben, tout ça fait que tout le monde que je connais a pogné le COVID aussi.
Ouais, même moi.
Fait que tout le monde y a pu y goûter. Et que malheureusement, j'espère que tout le monde se porte bien malgré tout. Mais là, on est revenu pour continuer à partager notre passion de fabrication de bière pour ceux qui sont passionnés ou ceux qui veulent avoir un petit coup de pied dans le derrière pour se remettre dedans.
S'il y a du monde qui n'a pas vu dernièrement, la semaine passée, si je ne me trompe pas, j'ai mis une vidéo sur YouTube qui était pour le nouveau système de Patreon. Si jamais tu veux nous encourager, tu peux aller t'abonner au Patreon ou adhérer nous sur YouTube. On va mettre une description dans les vidéos des podcasts aussi. Ça donne que ce forfait mensuel, vous irez voir la vidéo, ça part à 2$ puis ça monte vraiment beaucoup. Puis vous avez différentes choses disponibles, des petits... soit notre reconnaissance éternelle ou des collants, des participations, des sondages qu'on va faire pour les prochains podcasts, pour les prochaines vidéos, savoir de quoi vous voulez qu'on parle. Fait que ça va être un peu là-dessus que ça va se passer. Puis on va avoir tout le temps une section un petit peu plus poussée pour autant le podcast que les vidéos YouTube. Fait que si jamais ça vous intéresse de nous encourager, les liens sont dans la description. Puis c'est tout le temps plaisir de voir qu'il y a du monde qui nous écoute, mais aussi qui veulent qu'on continue à s'améliorer et qu'on ajoute des nouvelles choses et qu'on améliore tout le temps notre setup. Aujourd'hui, c'est encore au lab qu'on fait ça, mon Kev?
Ben, le petit décor, un petit rappel que le bar à Fitz est ouvert pour ceux qui veulent venir essayer à Delsun. Il y a 14 taps avec plusieurs bières différentes en roulement continuellement. Énormément de cocktails que ceux qui ont vu les photos sur les réseaux sociaux que Fitz est un grand fan et qui fait plaisir. Et il y a beaucoup de personnes qui apprécient.
On en sort un par semaine, à peu près. Là.
Surtout à peu près quand que tu sors tes bières fumées avec ta torche. Le monde aime bien ça. C'est un cool. Classique, ça. C'est un classique.
Ouais, on l'a fait hier, puis le monde a encore trippé. Le monde dit « c'est quoi ça? C'est notre bière fumée. » Fait que on va être disponible aussi d'acheter les smokers, si vous voulez. Au brasseur, fait que c'est un nouveau produit qu'on va rentrer là, dans pas long. Mon père y fabrique, fait que il va en faire une petite production, on va en mettre en vente, puis après ça, quand ça va être écoulé, on va recommencer les productions. Fait qu'on a tout le temps quelques-uns, puis moi, il m'en faut tout le temps un ou deux en backup parce que on peut faire à peu près, j'ai checké à peu près 1000, 2000 cocktails, tout dépendant. Fait que de smoke, fait que j'en fais à peu près ça par 2 semaines. Fait que je vais dire que j'en passe une coupe pour un bar, mais ça va bien quand même. On a trouvé des nouvelles techniques pour garder le dessus un petit peu plus longtemps là, avec du stainless à l'intérieur, comme ça. Ça fait en sorte que le bois brûle moins vite. Si
pour ceux qui veulent voir qu'est-ce que ça a de l'air, sachant que de quoi qu'on parle, le fumoir à la main et avec du chêne, des petits copeaux de chêne et une torche. La torche qui va être capable de faire ton travail assez rapidement.
Fait que tu sais, des fois, t'as pas le goût de faire un 23 litres de bière fumée, mettons une scotchelle fumée. Puis là, tu te dis, écrime, mais il me semble que ce serait bon de l'avoir fumé une fois de temps en temps. Mais avec ça, t'as l'opportunité. Tu peux te faire des old fashioned fumées, tu peux faire des blanches à l'orange fumées, tu peux faire des rousses, des marzennes. Fait que quand t'as le goût, tu mets ton copeau, tu le mets dessus, ça prend 15 secondes, ça fait un beau show pour tes amis qui sont là avec toi. Puis c'est vraiment cool à voir. Puis à boire aussi, tu vois vraiment la saveur rentrer. Si tu n'as jamais goûté, là. Tiendras faire un tour au laboratoire du brasseur, ça va me faire plaisir de te montrer ça.
Et en même temps, vous allez encourager le vieux Buck, qui est le vieux Bucky, qui est le père à Fitz, qui est très habile de ses mains, qui, dans ses temps de spare que beaucoup, j'imagine, ça lui fait plaisir d'être à son garage à faire. Hein? C'est ça.
Sa retraite, fait que ça lui donne une petite activité à faire en même temps. Puis lui, il aime ça quand le monde, il voit ça des fois, ses réseaux sociaux passer, puis il dit, ah, c'est moi qui l'ai fait, fait que c'est vraiment le fun pour lui. T'as-tu quand même brassé une fois au moins?
J'ai brassé deux fois. J'ai fait une Pilsner qui est prête présentement et que je suis dans mon cold crash que je devrais embouteiller en fin de semaine. Normalement, j'aurais en keggy, mais j'ai créé un monstre à mon travail. Mais c'est du bouche à oreille. Les gens disent « Ah, je voudrais goûter toute la kit. » Puis là, je reçois des appels. « C'est comme moi, je voudrais goûter, moi aussi. » Fait que là, j'ai pas le choix d'embouteiller parce que là, présentement, mes kegs à la maison, c'est de l'eau pétillante. Fait qu'au moins, c'est utilisé. On va essayer de s'hydrater toute la kit, sachant que la COVID continue puis nos mauvaises habitudes, c'est notre consommation a moyennement diminué.
Ah ouais, t'as continué à boire pas mal pendant ton confinement.
Ben, c'est ça. Et que là, ben, vu qu'en étant à la maison, puis ensuite, j'ai fait des découvertes de microbrasserie, mon petit côté péché mignon, ça va rester de la Corona. Coronalime, désolé. Je sais que...
T'as-tu encore ton spa?
J'ai toujours mon spa est toujours aussi utilisé. On est rendu au mois de septembre. La grosse saison va commencer. La piscine n'est toujours pas fermée. On a fermé le chauffe-eau pour être capable de se pitcher dans l'eau frette. Fait que là, c'est le plaisir dans la saison. Les récoltes de jardin, les épices fraîches qui vont me donner d'autres idées. Cet été, j'ai brassé une blanche à Guédel.
Tu nous avais amené ici aussi pour qu'on te fasse... on a fait une sour à Guédel qui a super bien marché. Si le monde n'a pas eu l'opportunité d'y goûter... je pense que Kev vient rester. T'en restais-tu, Kev, pour qu'on fasse un autre test?
Non, je pense qu'il me reste un 2 kilos. C'est dernière chose qui me reste, un 2 kilos. Fait que le monde, je sais qu'il a trippé, mais il y avait rien qu'un keg et qu'il veut pas, vu que c'était un petit buisson qui pousse chez nous. Puis c'est pas quelque chose de facile à acheter dans les supermarchés. Non. Un peu comme les Camrys.
C'est plus facile, je pense.
Mais encore là, je n'ai jamais vu...
En saison.
Ah ouais, probablement. Et que ceux qui avaient trippé là-dessus, ben tant mieux pour ceux qui
ont goûté.
Qui ont goûté. Parce qu'un keg, des fois, c'est des tests que Fitz ont fait ici, puis un petit affaire spéciale. Puis...
Ben, tu l'avais pas vu passer, mais on a fait trois sortes de smoothies. On a eu deux autres sour qu'on a faites, puis on est encore en test. On a trois autres bières test sour qui s'en vient. Puis ça va être pas mal la dernière, le test de sour pour cette année, je pense, parce que là, l'automne arrive, le printemps, l'automne arrive, l'hiver arrive, pas le printemps c'est encore dans un bout. Mais puis là, on va commencer à faire des bières un petit peu plus costauds, des belges, des doubles belges, un petit peu plus de stout. Oui, il va rester encore des marzennes, il va rester encore des MRB, mais MRB, justement, on va commencer à la ressortir. Je trouve que c'est une belle bière d'automne.
Elle me manque, celle-là. C'est un coup de cœur que Fitz m'a fait découvrir, que j'avais jamais goûté. Et j'aime vraiment cette bière-là qui va être disponible dans pas long.
Oui, dans vraiment pas long, on va recommencer à brasser ces bières-là. Délester un petit peu plus les Hefeweizen puis les petites blanches, là, trop faciles. Il va tout le temps avoir la blanche à l'orange, inquiétez-vous pas. Mais Hefeweizen où on a deux ou trois sortes de blondes, on va en garder une sur le menu. On va varier, soit la Marty Party, soit la Colch. Là, on a une blonde au miel de trèfle qui s'en vient pour faire un petit test. On est en train d'ouvrir une nouvelle microbrasserie à Boisrenois avec Nimel Nature. Alors, on fait un test de bière pour eux, la petite blonde au miel qui va être disponible ici en keg et en canne. Après ça, on a fait un autre type de blonde. Peut-être qu'on va le mettre sur le creamer, je suis en train d'y penser. Une petite blonde bien facile à boire. Puis après ça, on va tomber dans les... J'ai une autre blonde à faire. J'ai une autre blonde à faire parce que de plus en plus, il y a beaucoup de monde, que beaucoup de mes clients, je me rends compte qu'ils sont fait soit brocher l'estomac ou soit couper une partie de l'estomac. Tu sais, c'est quelque chose qui est plus accessible présentement.
Oui, je connais des gens qui ont fait ça.
Puis le problème de ça, c'est la bulle, ils ont de la misère, beaucoup de monde. Puis l'autre chose aussi, c'est si tu fais ça, c'est parce que tu veux prendre soin de ta santé, tu veux boire moins de sucre. Puis en prenant moins de sucre, la bière, tout dépendant du style de la bière, mais il y a quand même un bon taux résiduel de sucre. Si tantôt, on parlera de notre bière là, au gâteau qu'on a faite avec des marshmallows puis des cacao nibs puis tout ça. Là. Mais on a beaucoup de monde veulent couper le sucre dans leur bière, tu sais, pour avoir un petit peu moins de calories. Fait qu'on va essayer de faire un test de 20 litres, une brute blonde, probablement au creamer pour donner un petit peu plus de corps à la bière. Fait qu'une petite pétillance vraiment miniature, mais un beau collet, un peu comme une cream ale poussée à l'azote. Mais là, on va être vraiment sur un low calorie. Là.
Ouais, parce que l'azote, par défaut, va donner un côté crémeux, qui un aspect crémeux. Les bulles deviennent moins fortes en bouche. Fait que ouais. Ceux qui ont de la misère, qui vont souvent peut-être plus roter le kit, qui ont de la misère à passer le gaz, c'est une chose. Et le côté brut... C'est le côté brut vient généralement du champagne. Vous allez voir brut dessus. C'est que zéro résiduel de sucre de ça. Et que quand le vin, généralement, vous regardez, vous allez peut-être avoir de 1 à 7 et plus, tout dépendant, mais normalement de grammes par litre.
Ouais.
Et quand vous allez avoir de l'alcool fort, la codicier comme la vodka du rhum, généralement, vous allez avoir zéro sucre résiduel. Même si ça peut goûter sucré, c'est les arômes dedans et non le sucre.
Surtout quand il vient dans un baril ou quelque chose comme ça, là. Puis quand on fait des cocktails, justement, on fait pas une vidéo sur les cocktails, là, mais quand on fait des cocktails, pour balancer, on rajoute une partie de sucre, justement, parce qu'il n'y en a pas dans les alcools. Fait qu'on va rajouter du sucre de maïs, du sucre simple, du sucre de canne, du sucre de demerara. Puis on va faire des sirops de coco, de lait de coco, des sirops de d'autres choses, pour donner un petit peu de sucré dans notre cocktail, surtout quand c'est 100% alcool, tu sais.
Et que ceux qui sont au régime keto... Ben, vous pouvez venir voir la bière à fils, la brute qui va sortir. Donc, vous allez être prête pour pouvoir prendre une bière et dire que vous n'avez pas triché.
Puis, si tu veux l'essayer à la maison, c'est super facile. On a toutes les enzymes au brasseur pour pouvoir la brasser. Fait que fais juste nous envoyer un courriel ou présente-toi ou commande sur Internet. Puis, dis-nous, on veut l'enzyme pour faire la bière sans sucre résiduel. Puis, tu vas aller chercher aussi une levure qui a un petit peu plus haut taux d'atténuation. Fait qu'un 80-90% si, il y a du 100%, mais c'est assez rare dans le vœu. Je pense que la super haute gravité, la 99 qui est zéro, mais qui est 100%, je veux dire. Mais sinon, tu prends une haute levure en atténuation.
Comme ça, les GVEC vont faire la job facilement.
Ouais, si tu veux aller plus vite aussi, tu as les GVEC, la VOS qui est, je pense, à 80, si je ne me trompe pas, ou Arnedal qui est à 80-90. Sinon, les levures saison. Levure saison, ça va donner un petit côté épicé. Puis c'est surtout des levures qui montent à 80-90, là, souvent. Là. Surtout dans Omega. La Saison Stang,
J'ai jamais essayé.
Saison Stang est à 90% d'atténuation. Fait que si t'as possibilité de venir la commander, on en a présentement en inventaire en plus, ça tombe-tu bien?
En parlant de saison et de bière, est-ce que tu vas faire une bière à citrouille?
Pense pas. Pense pas de faire une bière à citrouille cette année. Peut-être. Peut-être qu'on va la faire plus en mou du vendredi. Puis s'il en reste un keg ou j'en garde un keg, on le mettra au pub. Mais, tu sais, une bière à citrouille, ça se boit dans le mois de la citrouille. Fait que c'est le mois d'octobre, ça. Fait qu'il faudra brasser là pour l'avoir prêt au mois d'octobre. Puis après le mois d'octobre, le monde, il boit une bière à citrouille, ça marche pas trop. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu changes le nom. Puis tu sais, tu as fait une bière de Noël. Parce que c'est pas mal les mêmes épices.
Pour de vrai,
si tu
oui.
regardes, si tu regardes, mettons, une petite bière à citrouille, tu vas mettre quoi? Du clou de girofle, tu vas mettre de la cannelle, tu vas mettre du gingembre, muscade. Puis quand tu veux faire un pain d'épices, tu mets quoi? Du clou de girofle, de la muscade, de la cannelle puis du gingembre.
Tu vas juste changer la couleur de l'étiquette.
Fait que tu sais, c'est moi c'est facile, je vais même changer le nom dessus mon étiquette. Fait que si vous voyez des cannes dans le frigidaire avec deux tickets un par dessus l'autre, vous avez compris que c'est la même bière. Non, je serais pas ça, là. Mais je veux dire que ça ressemble quand même relativement beaucoup. Puis souvent, on va aller chercher une bière plus dorée pour faire ce type de bière-là. Un qui rappelle la citrouille, doré comme la citrouille. Puis l'autre, ben doré comme Noël, les cannes de Noël, vu que ça goûte un peu la cannelle. Fait que c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Mais il y a une ancienne mode. Je me rappelle, il y a peut-être 10 ans, tu sortais des microbrasseries, il y a 10 ans.
Yes.
Puis il y a eu une grosse mode. Ça s'appelait un Randall.
J'ai jamais goûté.
C'est un genre de filtre en ligne que tu mettais avec ton...
Oui, je sais quoi.
Avec ton tap. Fait que tu passais le keg à l'intérieur de ce filtre-là qu'on pouvait remplir de plusieurs cochonneries.
Mais normalement, c'était du houblon. C'est, si je me rappelle bien, c'est Dogfish Head qui a inventé ça.
Oui, mais t'as du houblon. Là, après ça, tu peux rajouter des épices. Tu peux rajouter des fruits. Tu peux rajouter... Puis... Il y a plus, j'entends plus parler de cette mode-là.
Ça fait des années.
Ben, ça fait près de 10 ans, je pense. Au moins 7 à 8 ans, là, facile.
Je me rappelle qu'il y en a qui n'en avaient au festival de Montréal. Ouais, la bière Montréal à l'extérieur, pendant qu'il était à la gare centrale. Il y avait du monde avec des Randall puis avec un paquet d'houblon dedans. Là.
Ben, moi, celle que j'avais goûté, c'est à la Gabière avec des cannes de bonbons dedans.
Ouf.
Ouais, ça goûtait le scotch. Mais l'idée était bonne, tu sais. Il aurait peut-être fallu qu'il goûte avant de le mettre. Mais l'idée, le brand était bon, ça marchait. Écoute, j'ai goûté, j'ai pris une pinte. J'aurais peut-être dû prendre un tester. Mais j'ai pris une pinte.
C'est long,
puis,
hein?
Puis je trouve le principe peut-être pour l'automne intéressant. Aller chercher certains, justement, épices. Aller chercher certains fruits d'automne. Aller chercher, tu sais, un côté plus... t'es pas obligé de faire un gros lot. Fait qu'une journée, on met le Randall, on met une bière dessus, on l'essaye. Si vous aimez ça, on en met un autre, on essaie d'autres choses. Ça fait une bière un peu différente. Puis je m'arrangerais aussi pour, vu que j'ai un tap de tout le temps lousse dessus mon setup, que la bière pourrait être avec un Y. Fait qu'un côté, c'est la bière normale, puis l'autre côté, c'est le Randall. Fait qu'on perdrait pas une bière sur le tap. Mais je travaille là-dessus. Là. C'est un principe qui m'intéresserait beaucoup.
Ben, c'est une façon de faire des tests sans nécessairement dire qu'on a mis la bière sur un goût que peut-être ça donnait pas tout à fait à ce qu'on voulait. Puis en même temps, si les gens aiment la bière, mais ils n'aiment pas la partie trop forte de ça, ben la bière va être encore bonne pour vous autres parce qu'il va juste switcher de ligne.
Exactement. Mais là, l'autre chose qui s'en vient aussi, là, Kev, c'est le temps des casques. Là. T'sais, y a-t-il un meilleur moment de faire des casques qu'à l'automne? C'est quoi tu mets dans ton casque d'habitude, toi? Quel genre de bière tu vas mettre là-dedans?
J'adore les brown ale. Honnêtement, ça, c'est mon coup de cœur. Je sais que toi, tu as fait une malde que j'ai vraiment aimée. C'est une de mes meilleures maldes que tu as faites. Là. Moi, j'aurais pu boire ça sans aucun problème, passer à travers. Les Scotch Ale fit extrêmement bien dedans. Moi, il y a un côté sucré qu'après un verre, je suis rassasié, mais ça, c'est un goût personnel. Mais généralement, c'est des bières facile à boire, vraiment pas beaucoup d'effervescence dedans parce que c'est pas flat, mais pas loin. Mais c'est le style anglais qui...
Ben, c'est comme quand tu trouves une bouteille puis tu la laisses 3 jours sur le comptoir. Si t'arrives d'un premier, elle va être vraiment pétillante. Puis si t'arrives à la fin, ben, tu vas voir les shorts sur la vidéo. On avait tapé un justement la première qu'on a ouvert. Là, on a tapé un casque la deuxième semaine. Fait que, ben ça, c'est le temps. Là. Si vous avez des casques à la maison ou, tu vas dire, écoute, fils, là, j'aimerais ça faire un casque à la maison. Là. Colin, c'est 20 litres. Je ne vais pas pâter un 20 litres puis boire ça en 3 jours super rapidement. Je n'ai pas de party d'organiser. On a des petits kegs pour vous autres. T'sais, j'en fais des vidéos sur les kegs, les petits kegs. Il y a possibilité de mettre la main dessus ou la possibilité de le faire en casque. Fait que vous mettez votre petit baril au frigo, vous laissez fermenter avant, vous le laissez pétiller comme vos bouteilles 1-2 semaines. Après ça, vous le mettez au frigo pour le rendre froid. Vous le sortez, vous craquez la petite goupille au-dessus pour rentrer l'oxygène, puis il y a le robinet que vous pouvez vous servir comme un casque. Ça fait le même principe. Fait que si tu as une petite soirée, un petit souper avec des amis, ben, tu fais une bière qui fit dedans, puis après ça, tu as un 15 litres soit en bouteille ou en keg normal, puis tu as ton 5 litres de casque que tu peux faire découvrir à tes amis. Fait que même toi, à la maison, maintenant, à cause de qu'on a amené ces petits kegs-là, c'est disponible que tu puisses te faire aussi des mini-casques à la maison.
OK, pour ceux qui nous ont déjà vus et moi sur mes réseaux sociaux, vous savez que mes casques ont explosé. Généralement, si jamais des équipements que j'ai n'avaient pas bien été nettoyés, stérilisés, ou bien que j'ai mis trop de sucre dedans parce que je veux pas, c'est une pression avec les bouchons qu'on va mettre dessus. Si jamais on refermente au niveau d'un keg ou d'un casque, le ratio n'est pas le même qu'en bouteille.
Non, mais pour les petits kegs, on peut faire 7 grammes par litre sans aucun problème.
Pour ceux-là que vous avez, oui. C'est excellent parce que c'est combien de les petits kegs? Là?
C'est 5 litres.
C'est 5 litres. C'est parfait. Mais si vous ramenez ça à du 20 litres, Il y a des recherches à faire pour s'assurer que vous n'avez pas les dégâts que j'ai vécu.
Ou assure-toi que ta bière est vraiment bien fermentée aussi. Ça marche aussi pas
oui,
bien.
Oui, c'est très important si vous faites ça trop vite et des fois vous pensez que la fermentation est finie, mais si elle continue dans votre casse, en plus de rajouter du sucre, rendu là, vous allez avoir plus d'effervescence et trop de pression et ça fait des méga dégâts.
Kev.
Yes!
T'as-tu remarqué durant l'été que, depuis le début d'été, on parlait de casse, on parlait de mou du vendredi un peu, mais pour revenir au début de la conversation, là, t'as-tu remarqué depuis le début de l'été, le gaz a augmenté?
C'est capoté, là. Je veux dire, moi, je suis content de faire une journée par semaine en télétravail, mais j'en voudrais plus. Puis je peux-tu dire que mon auto est un 40 litres et que c'est pas énorme, puis il consomme très bien et que ça l'abuse pas du tout? Ça coûte cher!
Fait que, d'après moi, on s'enligne vers, tu sais, on a passé du COVID à moins d'une pièce le litre, après COVID à 2$ et plus le litre. Là, on était quoi, aux alentours de 1,80 sur des 15, tout dépendant des régions?
Là. Ouais, tout dépendant des régions. Puis là, ça commence à descendre, mais malgré tout, ceux qui regardaient les taux directeurs du Canada, les taux d'intérêt ont augmenté, ceux qu'il faut qu'ils renouvellent leur hypothèque et malheureusement, qui n'ont pas eu le choix de faire un move récemment. vu que les taux de hypothécaires et de maison coûtaient une fortune, que désolé pour vous, mais il y a des gens qui n'ont pas eu le choix et beaucoup de crises de logement en même temps.
Ben, tu regarderas, je ne sais pas si tu as écouté un peu mes vidéos dernièrement, là. J'ai fait la comparaison entre brasser maison et acheter de la bière à la maison.
Tu sais que je suis ton fan numéro un, c'est ça que j'ai écouté ton vidéo.
Mais tu sais, j'ai eu des commentaires, puis je vais parler un peu des commentaires qu'on a reçus sur cette vidéo-là, parce que je trouvais ça intéressant. Il y a du monde qui me marque, ouais, mais si je brasse au chaudron, puis si j'allais chez nous, j'économise encore plus, tu sais, c'est possible d'économiser. Oui, je le sais, je vous parle de la meilleure machine rapport qualité-prix sur le marché qui est une des plus dispendieuses. Si tu t'achètes ça, parce que tu veux pas brasser comme passion, mais plus comme pour activité et avoir de la bière pas trop chère.
Et c'est très simplifié au niveau de la méthode de travail aussi.
Oui, puis tu sais, t'es pas obligé d'être un professionnel pour brasser avec l'application. Ça t'explique toutes les étapes que tu as à suivre. Tu as des recettes de disponibles. Tu en as disponibles au brasseur aussi. Toutes les bières qui sont en fût ici sont disponibles. Fait que c'est un bon moyen pour commencer justement à économiser. Tu sais, quand on tripe bière de microbrasserie, on se le cachera pas. La bière de microbrasserie, c'est quoi? Entre 5$ la canette en moyenne.
À 8$ facile.
À 8 10$, tout dépendant lesquels, tu sais. Tu peux faire les mêmes bières chez vous pour moins cher. Fait que ça vaut la peine de commencer à penser, si vous voulez continuer à boire de la bonne bière, de le faire. Même si tu bois de la Budweiser, comme Kev, de la Corona, comme petite bière de soif, ben, il sera encore plus avantageux de s'en faire tout seul, sa Corona, vu qu'il est tout équipé pour le faire.
Sauf que la différence, il faudrait que je retransfère ma bière finie dans une tourie de vitre puis le mettre au soleil pendant quelques minutes pour avoir mon petit goût skunky. Puis je le ramène en dedans après.
Ajoute-toi un filtre UV pour les poissons.
Ouais, il y a moins de chances que d'avoir une contamination en faisant ça.
Mais dans mon vidéo, je vous le disais pas parce qu'on parlait vraiment de brasser versus économiser. Mais on fait des mous aussi du vendredi qui est disponible. Fait que tu sais, pour 20$ de plus environ, tu vas avoir le mou déjà fait. Il te reste juste à le fermenter. J'ai beaucoup de monde ici qui veulent me mâcher des kegs. C'est énorme. À toutes les semaines, il y a du monde qui m'appelle pour avoir des kegs. Hey, tu vends ça en keg, tu vends ça en keg, tu vends ça en keg. Ici, on a une trop petite production pour vendre beaucoup en keg. Fait qu'on en vend un ou deux par mois environ, le temps que la personne le boit, puis il le ramène. Puis souvent, la même personne en rajoute d'autres. Si on passe notre production en keg, ben pour moi, c'est moins avantageux. T'sais, c'est normal parce qu'on a 7 kegs de la shot. Mais à tous les vendredis, on fait un mou. Ça va te coûter moins cher de l'acheter. Tu as déjà ton équipement de fût si tu veux m'acheter mon keg. Fait que t'es correct. Tu as juste à t'acheter un keg, le fermenter pendant 2 semaines, 3 semaines, le transférer dedans, le fermer, puis c'est tout.
Puis vous avez le droit de faire vos petites touches personnelles. Vous pouvez choisir la levure, vous pouvez faire des dry-up comme vous voulez. Choisir les houblons, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Vous pouvez rajouter des épices dans votre fermenteur. Il y a plein de choses que vous pouvez faire juste pour vous amuser avec votre mou. Puis quand vous pensez au prix que le mou va vous coûter, moi, brasser, de prendre que j'ai pesé mon grain, j'ai moulu, j'ai brassé et j'ai nettoyé, pour moi, c'est 6 heures de travail. J'ai beau essayer, puis je coupe tout pour sauver du temps de A à Z pour dire que je suis ultra efficace, ça me prend quand même 6 heures.
Fait que le mou du vendredi va vous donner une bonne opportunité de commencer ou de recommencer à brasser. Puis tu ris, mais j'ai Benoît, pour pas te nommer, Ben, si tu nous écoutes, faisait quoi? 6 mois, je t'avais pas vu. Puis je vois un de ses amis qui vient tout le temps. Puis t'as-tu vu Ben? Puis t'as-tu vu Ben? Puis t'as-tu vu Ben? Là, j'ai dit à Chris, non, non, je l'ai pas encore vu. Fait que là, j'ai fait le mou du vendredi, je l'ai posté. Chris, il a envoyé ça à Ben. Ben, va te chercher un mou du vendredi pour que tu recommences à avoir de la bière pour te donner le goût de brasser. Je veux brasser avec toi, tu sais. Fait que c'est aussi une opportunité de recommencer plus tranquillement parce qu'on le sait que la vie est repartie à 100 millions de mille à l'heure. Tu sais, on est passé de 100 000 à l'heure à COVID à 2 000 à l'heure.
Ouais, qu'on n'avait plus rien à faire. Puis c'est pour ça que le monde a dit « Hey, on brasse, c'est le fun. »
Ouais, c'est ça. Tu mangeais, tu respirais puis tu dormais pendant le COVID. Fait que le monde se sont trouvé des petites activités. Puis après le COVID, on dirait que ça n'a pas fait une pause puis dire « Ah oui, ce serait le fun de prendre le temps de faire les choses comme du monde. » Ça a fait le contraire. Ah, « J'ai plus d'ouvrages, j'ai manqué ci, j'ai manqué ça. Allez, on peut faire ci, on peut faire ça, on va aller au restaurant, on va... » Fait que le brassage, des fois, venait un petit peu moins tout seul, tu sais, comme avant, parce qu'on roule deux fois plus vite. Fait que le mou du vendredi te permet d'avoir une bonne bière. Puis si tu veux brasser juste une fois par mois, bon, au moins, tu vas pouvoir faire la bière qui te plaît en brassant. Puis le reste du temps, mais tu as quand même de la bière si tu tapes ou en bouteille pour la Kolsch, la Brown, la Irish Red Ale, la... peu importe lesquelles que je fais. Fait que ça te permet d'avoir des bonnes bières de disponibles. Puis après ça, ben brasser une fois de temps en temps pour avoir vraiment la bière que tu as le goût d'avoir. Tu sais, il y a beaucoup de monde, moi, qui vient ici. C'est comme, je ne le nommerai pas, mais je vais le pointer, qui aimerait ça faire une bière au poivre rose avec de la coriandre, pas de la coriandre, mais
du
romarin dedans. Bah, moi, c'est pas vraiment mon style de bière à faire. Mais lui, s'il dit « Bon, ben j'ai une Kolsch parce que j'ai une petite bière blonde, j'ai une double belge parce que c'est l'automne qui arrive, puis j'ai une fausse bière au romarin poivre », ben il peut s'abrasser, ça lui donne quand même trois bières dans un mois.
J'aime ça, les affaires différentes, pas standards, que je fais des tests. Écoute, ça fait des années que je brasse.
En passant, tu vas avoir une autre bière... Un autre pierre au poivre, pas au poivre, mais au piment fort dans pas long.
Pourquoi tu me demandes?
Ben alors, qui c'est que t'en avais apporté une la dernière fois?
Ah, sac! J'espère que c'est pas encore du California Reaper.
Ouais, je pense que c'est quelque chose de même. Hein. tu vas avoir une bonne bière bien dosée de piment fort parce qu'il est passé la semaine passée ou l'autre semaine d'après, avant. Puis il m'a dit, en revenant de la pêche, là, je fais une grosse bière pour Kev. Là, tu vas voir, vu que lui, il aime ça.
Ben justement, cette année, on a fait notre jardin chez nous. Puis là, j'ai du romarin qui pousse, j'ai des pimentailles qui poussent. Il y a plein de choses que je vais m'amuser. Là, puis en parlant de jardin... On est dans le temps de la récolte du houblon frais pour ceux que ça pousse à la maison. Et que regardez, pour ceux qui veulent faire la récolte pour faire une bière harvest, une bière de récolte, vous devez prendre votre houblon extrêmement frais. Et donc, généralement, on va regarder peut-être dans l'heure qui suit entre votre récolte et le temps que vous allez l'utiliser pour faire votre bière. Parce que le houblon se dégénère très rapidement. Et que si vous voulez faire ça... généralement, demander un coup de main à quelqu'un que pendant que vous brassez, bien, vous pouvez faire un peu la récolte en même temps. Puis, je l'utilise généralement vers la fin de mon ébullition parce que je ne sais pas quel genre de alpha-acide que je vais avoir dedans parce qu'on n'a rien pour mesurer à la maison. Donc, je vais utiliser mes huiles essentielles autant que possible. Et que si ceux qui veulent faire leur récolte, regardez que vos cocottes commencent à sécher. Et que c'est pas qu'elles deviennent trop vieilles. Puis, ensuite, c'est ça qu'on veut pour avoir une maturité de tous les ingrédients à l'intérieur. Une fois que vous faites votre récolte, si vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite, je vais vous suggérer fortement de déshydrater. Et si vous avez un déshydrateur, généralement à 40 degrés pendant 7 heures, vous pouvez faire ça, puis après ça, vous le mettez sous vide dans le congélateur.
Juste un screen. T'arraches ton screen de porte-patio, tu mets ça dehors à l'ombre, t'étends ça là-dessus.
Ben, j'ai fait ça. On a fait une année ça. On a nettoyé le screen, on l'a mis dans le garage, puis on a mis un ventilateur en dessous du screen pendant toute la nuit pour pouvoir, avec le vent qui peut sécher, ça l'a donné un super beau résultat. On a utilisé ce houblon-là, c'est très, très bon. Et que vu que vous avez une grosse récolte, mais le screen fait très bien la job aussi.
Ouais. Sinon, tu le fais en deux batchs.
Oui. Dernière petite chose pour revenir sur le sujet, pour ceux qui veulent commencer à brasser mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, ceux qui ont regardé les posts de Fitz, il est maintenant disponible de faire la location de Grandfather. Et que sans être obligé de l'acheter pour savoir si vous allez aimer ça ou pas aimer ça, est-ce que vous voulez vous initier à ça? Mais c'est une façon, au lieu de prendre votre chaudron, pour le prix qui est extrêmement moindre, vous allez pouvoir brasser à la maison tellement facilement et peut-être ça va vous donner le goût de vouloir investir parce que vous allez trouver ça pas mal plus facile que votre chaudron. mais c'est une belle façon ouais, cool, de ça. Vous initier ou bien dire que vous voulez pas investir parce que vous allez brasser peut-être juste deux fois par année, peu importe. C'est une autre option ou bien si vous n'avez pas de place dans mon appartement.
Oui, mais on t'apprend à regarder aussi. C'est un peu plus complexe à faire parce que il marche sur le 220, mais j'ai beaucoup de brasseurs qui brassent en G30 puis ils disent tu sais, il me semble que j'aurais le goût de faire une grosse Scotchelle. On a fait des vidéos, des podcasts sur comment faire le double mash puis ces choses-là. Puis là, c'est comme, ouais, c'est un peu long, c'est un peu complexe. J'ai une chance de scraper ma batch quand même, l'oxydation, blablabli. Fait que, on va probablement louer dans le prochain mois, commencer, le G70.
Oh, fait vous avez un pick-up?
Non, c'est pas si pire. Quand il est enlevé de la boîte, ça se fait bien sur le banc arrière. Enlève les bancs de bébé, par exemple, parce que sinon, ça rentrera pas. Puis, le seul inconvénient qu'on a présentement, c'est qu'il faut ouvrir un peu le poêle. Fait que tasser le poêle pour aller se brancher en arrière. Fait qu'on va fournir l'adapteur de poêle avec un fil un petit peu plus long. Fait qu'on va faire une petite extension. Fait que tu seras pas obligé de tasser ton poêle complètement de la cuisine. Juste le lever pour être capable de passer ta main pour débrancher, puis brancher l'extension. Puis, tu vas pouvoir brasser proche de ta hotte de poêle. C'est sûr que là, on parle d'une évaporation d'environ 4-5 litres. Fait que peut-être craquer la fenêtre de la maison. Puis je vais essayer de le faire assez long, l'extension, pour... j'en ferai une ou deux. Pour le monde, ils sont capables d'aller des fois dehors brasser. Tu sais, c'est encore le beau temps là, de brasser dehors. Fait que si t'es à ton poêle n'est pas loin d'une porte de sortie, comme chez moi, il n'y aurait pas de problème, mais tu l'emmener dehors ou passer par la petite fenêtre. On a soit une fenêtre à côté du poêle, là, tu sais. Ouais, on a une galerie à côté. Fait que tu passes ton fil par la petite porte, la petite fenêtre, puis tu peux brasser dehors aussi. La seule chose, c'est avec le G70, je vous conseille d'être deux pour le lever, le panier. Surtout si vous faites un 60 litres final.
C'est beaucoup de grains. Là, c'est lourd. Ça va, vu que vous allez sortir votre panier à la main avec le poids de l'eau graduellement que vous allez le ressortir. On l'a fait, mon Fitz. Vous êtes un homme fort, tant mieux. Nous, on a décidé que notre dos est très important. Oui, c'est ça. Nos dos est un petit peu plus important. Et qu'on a décidé de dire non, donne-moi un coup de main. Mais ça se fait extrêmement facilement à deux. Là. On force pas. Là.
Ben là, j'ai pas encore le prix, j'ai pas encore tout le setup au complet, combien qu'on va le faire, puis avec les extensions et tout. Mais si c'est une chose qui vous intéresse, de dire hey, man, moi, j'aimerais ça l'essayer, puis je pensais de l'acheter, mais je vais brasser trois fois avec dans l'été ou dans le jour, dans l'année. Peut-être que la louer les trois fois, ça va être plus avantageux pour vous. Fait que si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire ou envoyez-nous un courriel ou peu importe. Puis ça va faire comme un surplus à votre équipement que vous avez déjà sans avoir le coût à dépenser de 2300-2400 $.
Oui, c'est à peu près ça.
C'est quand même assez cher, là. Fait que ça vaut peut-être la peine de le faire. Puis on va mettre tous les embouts pour refroidir aussi. Fait que tu sais, si t'as pas tout chez toi pour refroidir, ou si c'est déjà un grandfather, mais tu auras la même embout dessus, t'auras pas besoin de tout défaire ton setup pour continuer à brasser avec le gros système.
Puis ceux qui n'ont pas souvent de temps à brasser, mais c'est une façon de brasser beaucoup de bière en une étape. Parce que en général, brasser de la bière, qu'on fasse une petite batch ou une grosse batch, ça ne prend pas plus de temps. La seule différence, c'est le temps de réchauffer l'eau parce que le processus reste le même. Et que de nettoyer va prendre au même temps, le temps de mâche va prendre le même temps et que ça n'aura aucune différence. Et que si vous voulez faire ça, vous finissez avec trois kegs en une journée de travail au lieu de le faire trois fois. C'est une façon de dire que vous avez fait le plein de bière pendant un certain temps. Puis rendu là, vous pouvez splitter ça. Mettre des levures différents, mettre des houblons différents, mettre des épices différents, peu importe. Mais vous allez pouvoir avoir quand même trois bières avec la même base.
Oui, puis aussi disponible, comme tu disais, le G30. Ben, si tu as déjà un G30, je sais que moi, j'en ai quelques-uns déjà. J'en loue, fait que j'en ai quelques-uns. Mais je pense que tu es rendu à deux G30.
J'ai deux G30.
Puis, tu sais, ça te permet aussi quand tu vas faire ta Scotchelle ou ta double ou ta triple, ben, de faire deux mashes en même temps.
Oui, j'ai fait ça. Sinon, qu'est-ce que je fais aussi? J'ai fait la Two Penny qui me permettait de prendre mon mash que j'ai fait pendant une demi-heure de 1. Puis sachant que j'ai tellement de grains de dinde, encore beaucoup, beaucoup de sucre, je le plonge dans mon deuxième pour aller faire une bière gratuite à côté.
Ouais, moi, j'ai jamais trouvé que c'était super bon, ces bières-là.
Non, t'as raison.
Personnellement, j'aimerais mieux gagner du temps par deux matchs d'une shot.
100% raison. T'as 100% raison.
Si j'ai goûté, c'était pas méchant, mais je l'ai donné à ton ami.
Non, c'est correct.
Puis moi, j'en ai déjà fait beaucoup, puis ils ont tous fini au drain. Fait que tu sais, je pense que tu rajoutes un peu de stock dedans, un peu de sucre, puis un peu de peut-être du vrai grain, un peu, que ton grain qui était juste mouillé. Puis c'est comme... c'est une bière gratuite, mais que tu n'auras pas le goût de boire. Fait que...
Ben, c'est très utile pour attraper les guêpes.
Oui, ça oui. Ça,
faire
oui.
des soupes, faire des sauces. J'ai fait des ribs hier, justement, puis j'ai utilisé une bière stout au piment fort, mais avec moitié beurre, pour pouvoir, avant de les râper, et c'était phénoménal.
Hey, Kev, t'as-tu vu que t'as une bière devant toi?
Oui! Donc, Fitz a fait travailler très fort sur cette petite merveille. Ça, c'est vraiment pas mon style de bière, mais j'y ai goûté et je vous confirme que c'est extrêmement réussi.
Ben, écoute, ça fait une couple de temps qu'ils nous écoutent faire des podcasts, même ça fait comme 6 mois pour loin qu'on n'a pas fait. Puis au nouveau bienvenue sur le podcast du Brasseur, ben, merci beaucoup d'être là, jusqu'à encore là. On a une bière que, tu sais, tout le monde me connaisse, que moi, rajouter des adjuvants non conventionnels à la bière, je suis un peu pas contre ça, mais c'est pas vraiment mon dada. C'est pas mon dada, tu sais.
Mais là, tu t'es prostituée, là.
Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. une fois de temps en temps, je trouve ça intéressant de rajouter je dirais pas des cochonneries, mais rajouter quelque chose qui est pas nécessairement dans la bière. Tu sais, je faisais ma bière à citrouille. Je rajoutais des épices. Je faisais ma bière à blanche à l'orange. On rajoute des écorces d'orange puis de l'orange. À la limite, pour moi, ça passe, des bières aux fruits. Mais encore là, on a fait une smoothie. Là, je me suis surpassé. Mais
T'en restes-tu?
Non, il m'en reste plus. Ça a quand même assez vidé vite. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je suis plus un brasseur que j'aime brasser avec la matière première. Tu sais, le grain, les vrais adjuvants, tu sais, le blé...
L'orge, le seigle...
Mais l'orge, c'est pas l'adjuvant, mais le seigle, l'avoine... tu sais, c'est... Même le seigle, je suis pas un très gros fan de seigle dans mes bières.
C'est une question de goût.
Mais ça, c'est personnel, là. J'en mets un petit peu, c'est correct, mais je veux pas que ça vienne comme le petit crispy que ça donne, je trouve que c'est gossant.
C'est un goût très, très particulier, seigle, et surtout que c'est vraiment chiant à travailler, parce que, un, il y a pas d'écorce.
Non, comme le blé.
Comme le blé, et donc, vous allez faire des stock mash très, très facilement avec ça.
L'écorce de riz, ça va vous aider.
Oui.
Fait que c'est ça. Fait que je suis plus style à brasser avec les levures, jouer avec ma levure, aller chercher mes épices avec mes levures, aller chercher mes caramels avec mes grains, aller chercher mon beurre de peanut avec mes grains, aller chercher mon biscuit avec mon grain, puis mon café aussi. Tu sais, dans une stout, souvent, ça va goûter le café. Fait que je vais aller chercher plus avec le côté grain qu'aller le chercher avec mettant du café dedans. Mais ça, c'est vraiment personnel. Puis je le sais que de plus en plus d'amateurs de bière veulent avoir du nouveau, malgré qu'il y a quand même 375 styles de bière disponibles. Mais ils vont rajouter des biscuits, des gâteaux, des fromages, ils vont rajouter du lactose, ils vont rajouter du... tu sais, plein de choses que normalement, quand on pense à une bière, on ne mettrait pas dedans.
Non, c'est juste du non conventionnel, du non standard qui veulent comme... Comment, je dirais-tu quoi? Choquer? Une façon de choquer, une façon de voir les choses qui sont comme vraiment... OK, ça, c'est extrême. Mais ça marche pareil. Puis l'important, là, amusez-vous. Vraiment,
oui, mais je
là...
veux dire, comme une bière, pour moi, c'est ça. Tu sais, quand on rajoute, comme dans cette stout-là, trop de choses qui puent nécessairement comme ça, je trouve que ça vient casser un peu le... Hey, si je trouve que ça goûte la vanille, ouais, j'en ai mis dedans. Tu sais, c'est sûr que si je mets 4 gousses de vanille dans une bière et tu me dis que ça goûte la vanille, je serais pas fier que ça goûte la vanille parce que j'en ai mis puis c'était le but que ça goûte parce que c'est de la vraie vanille. Tandis que si je mets pas de vanille dedans puis je voulais aller donner un goût de vanille puis ça goûte la vanille parce que j'ai utilisé une certaine levure à une certaine température qui va aller donner le goût de la vanille, ou je vais utiliser un tonneau de bois pour aller donner mon goût de vanille parce que ou mes copeaux, je vais être bien plus fier de moi. Ça, c'est tout le temps
ça,
personnel.
Ça, c'est fit. Ça, c'est vraiment fit. Vous n'êtes pas fit. Je ne suis pas fit.
Non, toi, tu brasses tout le temps plein de cochonneries.
Oui, je sais. Mais différemment. Juste pas sucré, pas extrême. Non, c'est ça. Mais...
Fait que pour cette bière-là, on a gâté les clients qui aimaient ça, ce type de bière-là. Fait qu'on a rajouté des guimauves enrobées de sucre. En passant, une guimauve, c'est du sucre. Mais la guimauve, en plus, est enrobée de sucre, puis l'intérieur avait du chocolat dedans. Ça, on a mis dans un BBL, un 7 keg. Là. On a mis 20 ou 35 kilos.
C'est énorme.
Après ça, on a rajouté du cacao nib qu'on a fait griller au four. On a rajouté 2 livres. Puis on a rajouté après ça, pas le cacao nib qu'on a fait griller, c'est le cacao, la noix de coconut, qu'on a fait griller. On a rajouté 2 livres. Puis on a rajouté 2 livres de cacao nib en plus dedans pour donner un petit goût côté plus chocolat encore. On a rajouté des bonbons au café aussi.
T'es un malade.
Fait qu'on a rajouté à peu près 20 de sachets de bonbons au café dedans. En passant, si vous mettez des bonbons, ça c'est un conseil que je vous donne, là, mettez ça dans un coton fromage. Parce que
ça va coller dans le fond.
Mais la particule qui fait le bonbon gommant, il se dissout pas tout au complet. Fait que c'est assez dégueulasse à nettoyer par la suite. Fait que le coton fromage, vous le pognez, vous le mettez au vidange. Puis aussitôt que vous avez fini, là, vous nettoyez bien comme du monde à l'eau chaude, PBW, puis je te conseille de mettre des gants et mettre de l'eau plus chaude que d'habitude.
Bien, il y a un petit truc que tu m'as donné quand on avait fait une belge. Il y a les candies, justement, qu'on peut acheter pour faire le cible de belge. On les avait mis dans un tamis.
Ouais, mais
le tamis, on l'a juste fait avec un gant, on s'entend, là. On l'a juste fait rouler pour le faire diluer graduellement.
Ouais, je l'ai fait avec les bonbons, puis non. Ça m'a pris 3 heures à nettoyer mon tamis.
Sur les candies de Belge, ça marche à merveille. Pour les candies commerciales, les bonbons commerciaux, ben
la gélatine fait en sorte que ça fuck un peu le chien, puis c'est pas super plaisant à nettoyer. Mais pour vrai, elle est vraiment bonne. Mais la guimauve, moi, je la goûte pas. La guimauve, ça va goûter un peu le...
Ben, le côté sucré, côté guimauve, je le vois.
Ben, t'as plus le côté vanille, la guimauve.
Juste une petite parenthèse, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, on a toujours dit que nos papilles gustatives, on en a chacun un.
Ouais.
Tu sais, puis moi, j'ai le feeling un peu plus guimauve. Lui, il goûte un peu différemment. Et ça me fait penser à la stout aux peanuts que j'ai faite. Et que j'ai fait vraiment griller des peanuts, que j'ai rajouté même la pleure de peanuts dessus. Était super bonne, j'ai pas goûté. Ma femme la goûtait, la pinotte, puis moi, j'ai vraiment rien goûté. Et ce qui prouve, encore une fois, que vous allez avoir votre propre perspective dessus.
Ouais, mais tu sais, tu parlais tantôt de... T'as pogné le COVID, il paraît?
Ouais. Ouais, ben, moi, j'ai perdu le goût.
Moi, j'ai pogné le COVID, là, 3 semaines, 4 semaines environ. Je goûtais crissement plus rien. Puis après ça, tout de suite après, j'ai eu une sinusite. Fait que je goûtais crissement plus rien. Fait que le COVID a fait en sorte que je goûtais certaines choses. J'ai pas perdu le goût complètement. Mais vu que j'avais beaucoup le nez congestionné, je goûtais beaucoup moins. Parce que on goûte beaucoup avec la flaveur. Puis c'est ça. Fait que là, ça commence à revenir tranquillement, le goût. Tranquillement, mais pas assez pour aller faire les petites subtilités.
Les subtilités.
C'est ça, je voulais dire. Que j'avais avant. Fait que c'est un autre... Un autre apprentissage à les refaire.
Fait que pour une pastry stout, moi qui n'aime pas ça, est pas sucrée. Et que vous allez voir plus les arômes que le côté sucré en arrière et qu'elle se boit très bien. Et n'oubliez pas, pour toutes les bières foncées, si elle prend un peu plus la température pièce, vous allez avoir beaucoup plus de saveurs qui vont ressortir à mesure qu'il prend une température plus chaude.
Oui, fait que ça va vous aider vraiment beaucoup. Hey Kev, on parlait de l'automne. Là, l'été, il commence à être fini. On est... Moi, quand l'école recommence...
Ouais, l'été est fini.
L'été est fini. C'est dans ma tête, ça a tout le temps été ça. D'habitude, les vacances sont pas mal finies.
Moi, je me suis gardé une semaine de vacances en octobre pour faire le tour des vignobles avec un ami en Ontario.
Mais normalement...
Oui, c'est pas mal fini. Parce que normalement, je le regarde pour retourner dans le sud rendu en fin de saison.
Puis, l'école a recommencé. Fait que là, les parents, ils ont plus de temps. T'sais, ils sont moins... sortent moins un peu le soir puis les fins de semaine parce que les enfants se couchent plus de bonne heure. Fait qu'à moins que tu te pognes une gardienne. Mais tout ça pour vous dire qu'on va recommencer au mois d'octobre les cours de fougou. J'en ai un de fait au complet. J'ai 2 cours de fougou de fait. Fait que ça va vous permettre justement, on parlait de dégustation de bière, de reconnaître les bons goûts et les faux goûts. Parce qu'une sûre, une bière sûre que tu fais ou que tu jettes puis qui goûte le vomi, c'est pas une bière sûre. Fait qu'en sachant ça, tu vas pouvoir dire, c'est pas que j'aime pas le style, c'est qu'il y avait une bactérie ou un défaut dedans. Puis c'est pas vrai que si tu rajoutes plus de houblon ou tu rajoutes des fruits dedans, que ça va cacher tous les faux goûts. Ils vont être moins perceptibles, mais ils vont être quand même là. Fait que quand tu fais une bière à la maison, puis tu sais, quand tu y goûtes straight, puis tu sais comme, ça goûte le vomi de bébé. Va pas y mettre 4 livres ou 4 kilos de framboises dedans. Là.
Tu vas juste gaspiller, à lavabo.
Tu vas juste gaspiller 4 kilos de framboises puis recommence ta batch. Puis avec ces cours-là, ben, tu vas savoir qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait. pour pas reproduire la même erreur, fait que pas perdre encore un 3-4 jours. Parce que c'est comme 3-4 jours pour faire un sour, comme du monde. Là.
Mais qu'est-ce qui vous aide beaucoup, c'est quand, pour ceux qui sont habitués de boire souvent les mêmes bières. Parce que ceux qui sont habitués pour être stédés, vous allez être capable de discerner quand qu'une variété. C'était quoi l'histoire encore? C'était-tu Labatt ou Molson quand ils ont changé des tuyaux en stainless au lieu de cuivre, puis ainsi de suite, puis il y a du monde qui ont trouvé que ça ne goûtait pas la même chose?
Ah, oh, celui-là, je ne sais pas, mais je sais que... Il y a une brasserie qu'on nommera pas, qui avait changé leur système de brassage, puis il y avait une meilleure efficacité. Parce que c'est normal, là, quand tu veux grossir, tu sais, tu commences petit, comme moi aussi, j'ai une efficacité de, mettons, 70%. Bon, ben si je rouvre une plus grosse micro, je vais essayer d'avoir un 77, 80, 85% pour économiser. Tu sais, plus qu'on brasse, plus qu'on veut faire des sous, en réalité. Mais les amateurs, de eux, dans le temps, là, on parle de là, plusieurs années, ben, ils se sont rendus compte que la bière goûtait pas la même chose. C'est sûr, il y a moins de sucre résiduel, il y a moins de grains dans le grain, il y a moins de grains. Fait qu'ils ont été obligés, avec les plaintes qu'ils ont eues, de réduire leur efficacité, qu'ils avaient payé plus cher le système pour avoir une meilleure efficacité, meilleur moulin, meilleure chose, pour redonner un équilibre entre les deux pour que ça recommence à goûter vraiment leur bière. Fait que si on regarde juste, il y a certaines microbrasseries qui sont trop petites pour faire des canettes. Mettons comme moi ici, je fais mes cannes ici, mais je voudrais produire en gros volume, je pourrais demander à un autre micro de faire mes recettes, la même recette, je vais la brasser avec lui, puis que lui ferait mes cannes. Mais quand vous venez ici, vous goûtez la même bière, soit en canne ou au tap, vous n'allez pas nécessairement goûter la même sorte de bière, parce que c'est pas le même équipement, c'est pas la même efficacité. Fait que c'est pour ça que souvent, il y a une micro que je connais, que quand on va au pub, le monde du coin du pub déteste la même bière en canette. Puis le monde de Montréal, qui habite pas dans cette région-là, déteste la bière du pub en fût parce que c'est pas la même bière. T'sais.
Quand les gens s'habituent à un goût, des fois, ils disent « Non, c'est ça que j'aime, c'est ça que je suis habitué. » Puis la dernière fois, le changement ne fait pas.
C'est pour ça que quand on disait... C'est juste le système de brossage, là, puis le brosseur.
Ben, c'est justement parce que la recette est la même, mais la réalité, vous voyez à quel point que si vous brossez ailleurs, vous changez votre équipement, puis vous dites « Hey, ça goûte pas pareil », c'est normal. Puis au même principe que si je donnerais ma recette à Fitz avec le même équipement, il y a des chances que ça goûte pas la même chose. Il va y avoir une bonne base quand même qui va se ressembler.
Ouais.
Mais notre façon de travailler, la façon qu'on fait les choses va aussi faire quelque chose. C'est comme le spaghette de ma mère était le meilleur. C'est un peu le même principe. Tu peux avoir la recette, mais ça donnera pas la même chose.
Ben, le fait aussi de faire ta propre bière maison, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas y mettre ta touche personnelle, puis on est tout le temps plus fiers de ce qu'on a fait. T'sais. Ah, j'ai peinturé moi-même mon auto. Toi, tu le trouves super beau. Moi, je trouve que des coups de rouleau.
J'ai déjà vu ça. J'ai
fait les meilleurs hamburgers au monde ou le meilleur steak. T'sais, viens chez nous, on va manger du filet mignon. Là, mais je fais ça tellement bon. Ouais, toi, tu manges ça semelle de pâte. Moi, je mange ça rouge. Il y a tout le temps la question du goût personnel. Fait que pour toi, c'est tout le temps le meilleur parce que tu le fais à ton goût à toi. Comment tu as été élevé, ta famille, qu'est-ce que tu as mangé dans ta vie, si tu as voyagé ou pas. Fait que le fait de faire ta propre bière, tu vas prendre les meilleurs ingrédients disponibles parce que on n'est pas à 5$ près d'une recette de 23 litres là, pour changer 4-5 grains pour avoir le meilleur du meilleur, tu sais.
Non,
puis,
c'est
même
ça.
Affaire pour ton houblon. Tu vas pouvoir dire « Hey, le nouveau houblon, j'aimerais ça y goûter. » Ben, tu peux faire un smash, un houblon, un grain pour goûter vraiment houblon puis savoir dans ta prochaine année IPA si tu as le goût de mettre ce houblon-là à plus grande quantité au lieu de mettre tout le temps le traditionnel Citra, tu sais. Vous n'avez pas de contrat ici, vous n'avez pas d'obligation d'achat. Fait que c'est là qu'est le fun d'essayer puis de vous trouver un goût particulier à vous, à votre saveur. Puis en passant, les 350 micro-Québec, le 300-350, ils ont tous commencé à une place. Dans leur garage, dans leur cave, dans leur cuisine, dans leur salon, dehors, dans leur gazebo, dans mon cas. Puis ils ont commencé maison en faisant des tests. Puis quand ils ont parti de micro-brasserie, ils se sont dit la même affaire. Je fais de la bien meilleure bière que les 50 microbrasseries. Puis le centième, il a fait je fais de la bien meilleure bière que les 100 autres microbrasseries. Puis le 200e, il a fait je fais de la bien meilleure bière que les deux, ainsi de suite.
Ça reflète le goût personnel de la personne aussi.
Il n'y a personne qui rouvre une microbrasserie en se disant je vais faire de la petite marde.
Il y a du monde de business.
Ah, il n'y a personne. Le brasseur, je parle. Tu sais, c'était
Le brasseur devrait être fier de son travail au même principe qu'un chef cuisinier. S'il fait quelque chose, c'est qu'il est fier de ce qu'il a fait.
Fait que tu sais, il n'y a pas une micro, ça se peut que ça soit pas dans vos goûts, mais il n'y a pas une micro au Québec qui est partie avec l'intention de ne pas faire des produits de qualité à son goût, à lui.
Mais vous allez voir, depuis le temps que vous tripez sur la bière, qu'il y a des compagnies et des brasseurs qui sont meilleurs que d'autres pour le même style de bière. Vous pouvez voir la différence de qualité et ainsi de suite.
Tu sais, il y a certaines microbrasseries aussi que des fois, ils vont être obligés de modifier leur recette parce que la levure qui n'est pas disponible chez son fournisseur, tu sais, comme moi ou comme les grandes compagnies. Des fois, on veut commander, c'est souvent en micro, on va commander des grosses patchs, des 1 litre, 2 litres, ou on va faire des starters. Puis, mettons, tu es habitué d'utiliser la WLP400, exemple, puis elle n'est pas disponible. Ben là, des fois, c'est ça qui va faire en sorte que ta bière ne goûtera pas exactement la même affaire que tu es supposé. Ou tu vas vouloir aller dans une levure sèche qui va te coûter un peu moins cher.
Vous pouvez faire les tests à la maison. On avait regardé justement qu'on fait louer le G70 dans pas long qui va vous revenir. Mais si lui, vous allez faire une batch avec ça, vous pouvez faire trois kegs. Donc, vous pouvez justement faire des tests pour à la maison pour essayer de vous-même de prendre trois fois la même souche pour voir qu'est-ce que ça donne comme différence. Parce que tu sais, le goût ou le visuel, malgré que c'est des laboratoires différents, chacun a sa propre recette de cette souche-là.
Tu veux dire, malgré que c'est trois souches identiques, ils ont chacun leur recette de bière. C'est ça que tu voulais dire?
Bienvenue à ma dyslexie.
Mais tu sais, c'est le fun parce que de ce temps-ci, souvent, là, l'automne arrive. Hein? Puis à l'automne, on aime plus les bières réconfortantes. Tu sais, des bières un petit peu plus lourdes, des bières plus réconfortantes. L'été, on va être des IPA, d'un New England IPA, d'un West Coast. West Coast, ça, je trouve que c'est un style qui marche assez bien l'automne aussi parce que c'est plus amer, c'est plus englobant. Mais avec les levures de souche belge, là, il ne faut pas se tromper, là, c'est pas juste une hibrou qui font des Belges. Là. Puis tu sais, comme Kev, un moment donné, il me disait, il dit, oui, mais tu sais, le Québec a été habitué aux bières belges avec la SAQ.
Bien, c'était de l'importation. Si vous regardez, là, depuis des années, pour ceux qui sont des fans de bière depuis longtemps, c'est ça que la SEQ avait la facilité d'importer. On avait, même encore aujourd'hui, vous pouvez en retrouver généralement la Sainte-Bernadus, qui est un grand coup de cœur, la Rochefort 10, qui est un grand coup de cœur aussi, mais vous allez voir du Orval aussi, et une longue liste, mais généralement, il y a des bières partout dans le monde, mais la SEQ est plus spécialisée en l'importation de bières belges, puis c'est ça qu'on s'est habitué, surtout avec Unibrew à l'époque.
Ben, c'est ça que je m'allais dire, parce que tu sais, beaucoup de monde associe bière belge à Unibrew parce que c'est leur style principal qu'ils font. Ils ont peut-être commencé à faire un peu d'autres styles dernièrement, mais Unibrew est considéré comme belge. Mais il faut faire attention parce qu'Unibrew utilise leur propre levure. C'est une levure canadienne belge qu'ils appellent, puis c'est une levure qui va donner certaines esters. Fait que toutes leurs fins de bière goûtent à peu près la même chose. On avale parce que c'est la levure qu'on va y retrouver dedans. Si vous prenez un exemple, d'autres souches, vous allez avoir des goûts de prune, des goûts de poire, des goûts de datte, des goûts de goviave dans votre recette, mais on va appeler ça plus...
Stone fruit.
Oui, exactement.
Que je
ne
pourrais pas dire c'est quoi en français, mais c'est une catégorie de fruits qui vont aller chercher une saveur plus... pas été, là. On va regarder quand on parle justement de prune, quelque chose de plus rond, plus un côté sucré, mais pesant. C'est ça qu'on va aller chercher dans ce type de levure-là.
Qu'est-ce qui est cool, par exemple, c'est que si tu es mal équipé pour faire des NIPA, parce que l'oxydation des houblons, c'est là que c'est plus complexe. T'sais, on va regarder, mettons, c'est pas plus difficile de faire un NIPA, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut juste qu'il soit mieux équipé. Tandis que si tu vas aller chercher des bières avec des goûts de stone fruit, ben c'est plus facile, c'est moins de risque d'oxydation. Si tu es mal équipé à la maison, il y a aussi des souches de levure norvégienne, qui est l'Ikvek, que tu vas pouvoir aller chercher le goût de tropical, le goût de fruits tropicaux, de goût d'ananas, de goût d'orange dans ta levure. Puis ça, c'est un peu mal exploité présentement, autant dans les professionnels que dans les amateurs de bière, si je me trompe pas. En tout cas, pour ici, qu'est-ce que je vois? C'est que tout le monde qui prend des Ikvek, peu importe laquelle, toutes les levures norvégiennes, c'est pour faire des NIPA. Bon, on peut faire d'excellentes blondes, d'excellentes rousses, à part la Lutra. La Lutra, c'est un hybride quand même pas si pire. T'as connais-tu la Lutra?
Je l'ai pas essayé, non.
La Crispy?
Oui, celle-là, je l'ai essayé.
Fait que tu vas voir que ça va donner une levure plus clean, plus propre. Fait que on va prendre la Crispy ou la Lutra comme base pour faire des blondes. Puis après ça, tout le reste va aller dans les fruits tropicaux. Mais on peut faire une blonde avec une gveck qui va être super bonne parce qu'en Norvège, ils ne boivent pas des NAIPA, là.
Non, c'est purement nord-américain. Puis, ben, écoute, ça fait tellement longtemps que les New England IPA sont sortis que j'imagine que ça a dû faire un peu plus que le tour du monde, mais c'est comme si que ceux que tu regardes, un exemple, en Tchécoslovaquie, puis ensuite, c'est comme une parjure, les New England IPA. Ils vont dire, c'est quoi cette cochonnerie-là?
Ben, à ça, ils commencent à aimer ça un peu, je pense, là. Mais tu sais, on est plus habitué de boire des bières clean. Fait que si t'as pas la possibilité d'avoir un glycol pack, d'avoir des pièces tempérées vraiment précises chez toi, d'avoir un frigidaire de contrôle, tu peux utiliser les bières belges parce que pour avoir ce goût-là, il faut monter un petit peu plus en température. Fait que souvent, dans ce temps-ci, là, l'automne là, au Québec, peut-être en France aussi, mais je sais qu'au Québec, c'est comme soit qu'il fait 14 le matin, puis il fait 45 l'après-midi, puis ça va retomber à 20, puis là, le lendemain, il peut faire 36, il peut mouiller, fait qu'il n'y a plus de soleil, fait que la pièce se réduit, puis après ça, le soir, dans la journée, le soleil apparaît. Fait que c'est un peu des températures en dents de scie.
C'est pas de baisse pour la fermentation.
Mais le fait qu'on soit en dedans, ça fait en sorte que ta pièce reste quand même chaude, tu sais, c'est pas encore des... Les nuits sont plus fraîches, mais le jour, c'est quand même chaud. Fait que ça te permet de brasser des bières belges un petit peu plus équilibrées. Fait que si présentement, dans ton sous-sol, il fait 22, 23, pour une bière belge, c'est parfait. Tandis que si tu veux faire une lager, je te conseillerais d'attendre cet hiver. Puis si tu as une sonde-pompe avec de l'eau dedans, ben tu mets juste des toiles si ta pièce n'est pas fermée. Puis ça peut descendre jusqu'à 10 degrés.
Mais le but, c'est que quand on va aller chercher ces saveurs-là dans les parties d'ester, mais amusez-vous avec les températures. Parce que si on regarde au niveau des GVEC, on peut monter extrêmement haut, donc vous n'avez pas besoin d'avoir de contrôle, puis vous allez avoir plein de saveurs. Si vous avez un moindrement de contrôle avec la température que vous avez dans votre pièce, bien, avec des levures belges, vous allez avoir plus d'ester. Et qu'est-ce qu'on parlait des fruits, des storm fruits qu'on peut avoir en montant la température? Vous n'êtes pas obligé de monter la température. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand ça va commencer à fermenter, la température va augmenter automatiquement. Et que c'est facile de monter à du 25, 26, 27, 28 degrés sans rien faire. Et que c'est juste que pendant que la grosse fermentation se fait, vous allez avoir beaucoup plus d'ester parce que la prolifération des levures vont créer ces saveurs-là. Et c'est ça que vous voulez dans votre bière.
Fait que ça ressemble beaucoup à ça, le côté levure de la bière avec le temps des saisons. T'sais, choisir une bonne levure pour la bonne saison, choisir un bon style de bière pour la bonne saison. On n'est pas tout le temps obligé de rajouter des guimauves pour avoir une bière d'automne ou rajouter des biscuits en feuilles d'érable. Là. C'est le fun. Non, mais ça peut être le fun à faire. Là. Puis si vous avez l'idée de le faire, faites-le, amusez-vous. Puis c'est ça qui est le fun. Mais vous pouvez aller retrouver, on veut dire, les vraies bières, les vraies saveurs de la bière juste en jouant avec vos levures. Si tu veux faire ta bière, mettons, comme tantôt, on parlait d'une bière... tu m'as demandé si je ferais une bière...
Astrouille.
Astrouille. Ben, la dernière bière Astrouille que j'ai faite, je voulais pas rajouter de cannelle, de camomille, de... Whatever, non, y a pas de camomille, là, mais... Je suis allé chercher une levure de... une effervescent.
Je pense que t'as fait quatre types de bières avec des quatre types de...
Ça, c'est la Emmerbeer.
Non, mais t'as fait ça aussi avec, avec la bière au citrouille. Et chaque bière goûtait extrêmement différente.
Mais qu'est-ce qui est plaisant là-dedans, c'est que c'est les levures qui donnaient le profil de goût.
Des épices.
Fait que quand tu dis « Ah, ça goûte l'épice, puis j'en ai pas mis dedans », c'est comme que je disais tantôt, ça me rend un peu plus fier que quand tu me dis « Ah, ça goûte vraiment à cannelle. Ouais, j'ai mis 8 bâtons.
» Ben, c'est ça. Avec le petit truc, si vous utilisez la effervescent, vous allez fermenter à basse température, plus froid, qui va sortir les goûts des épices. Mais si vous ne contrôlez pas, puis vous allez monter trop haut, vous allez avoir un goût de banane.
Ou de gomme ballon.
Et que c'est peut-être pas ça que vous vouliez dans votre bière astro, si jamais que c'est ça que vous voulez faire.
Mais c'est vraiment intéressant. Puis allez lire, c'est le vœu. On a le www.le-brasseur.ca. C'est le meilleur site au monde pour aller lire sur les levures, sur les grains. Puis avec ça, vous allez être capable de découvrir des fois des petites touches puis des petites affaires que vous pouvez améliorer vos consommations, vos bières. Puis si vous avez l'opportunité d'avoir un G70 ou vous pouvez venir le louer, comme Kev disait, bien, c'est possible de faire trois batchs séparés en trois levures différentes. Puis vous allez voir que des fois, vous allez dire que la levure 1, la W400, un exemple, goûte plus que la B44, malgré que c'est la même souche, que c'est deux laboratoires différents. Ou vous allez dire, pour moi, écoute, je vois aucune différence au goût, fait que ça me dérange pas, un ou l'autre, c'est disponible, je vais pouvoir l'utiliser. Si vous voyez une différence entre les deux, ben vous allez dire, mettons, moi, je préfère la B44, Fait que si elle est disponible, tu vas prendre la B44. En choix 2, tu vas prendre la WLP400. Puis en choix 3, tu vas prendre la 3944 de Wahiz, un exemple. Mais Wahiz, on les utilise un peu moins parce que on a fait quelques recherches, moi et Kev, puis on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit peu moins de souches que ce qu'ils disaient dans leur paquet à cause de leur Smack Pack. Fait qu'on les a éliminés ici du brasseur. C'est la seule compagnie, par contre, qui avait la Canadienne Belge de Unibrew. Fait que, si vous voulez pas la Unibrew, désolé, mais si vous voulez pas tous les autres types de Belges qu'il y a, les autres compagnies de levure sont disponibles. Présentement, j'utilise beaucoup Impérial pour leur Belge. Fait que je trouve qu'ils ont les choix parfaits. Qu'est-ce que j'aime d'Impérial, c'est que toutes leurs levures sont tout le temps disponibles quand je commande. Ils ont moins de variété que les autres compagnies, mais sont tout le temps disponibles. Fait que si tu me dis que la B56, tu l'aimes pour faire ta belge, j'en ai tout le temps une ou deux en inventaire. Puis probablement que ça va être celle-là, la B56, qu'on va faire la double belge. Fait que je vous donne un petit plus présentement.
Puis 200 milliards de levures par souche. Fait qu'elle va rester en santé. Vous n'allez pas avoir de délai avant que votre fermentation parte. J'ai jamais eu aucun problème avec aucune des souches d'Impérial. Et que moi, je suis très content du résultat de ce produit.
Tu sais, puis on parle de levure, mais il y a aussi les brettes aussi qui existent, là, qu'on n'a pas parlé, que vous pouvez faire des bières vraiment funky, vraiment intéressantes avec une genre de brette, soit une sour qui est plus commun, si tu veux. Mais il y a certaines microbrasseries au Québec qui se spécialisent dans les brettes. Je pense à Brewery Sutton, que lui, de mémoire, il fait 100% brette dans tous ses brassins. Puis allez goûter ces bières, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. C'est tout brassé avec des brettes différentes. Puis, je pense qu'il fait des tonneaux aussi, si je me trompe pas. Il faudrait que Pat nous le dise. Mais c'est des bières vraiment intéressantes à faire. Par contre, si vous en voulez, vous devez commander vos brettes d'avance. J'en tiens plus parce que c'est un peu touché pour les équipements de plastique. Oh, je préfère dire que ça prend un équipement dédié. Et là, je viens de dire « je préfère dire ». Il y a du monde qui vont me dire « moi, ça ne change rien ». Tant mieux pour vous. Mais lisez sur les brettes, renseignez-vous sur les brettes avant de les utiliser parce que ça peut être de quoi qui va infecter un petit peu plus vos matériels.
Voyez, les gars, comme entre parenthèses, un contaminant. Parce que si j'appelle, le but, c'est que si vous brassez souvent et que vous réutilisez votre même équipement, si jamais ça n'a pas été bien nettoyé, ça n'a pas été bien stérilisé, s'il reste une mini-souche de levure, la levure brette, elle va se repartir et vous allez avoir un goût de brette dans vos autres bières. C'est pas un problème pour la bière, mais c'est pas ça que vous voulez dans vos autres bières.
Bien, ça pourrait être un beau sujet de podcast éventuellement, là, parler de brette justement. Je pense qu'on ne l'a jamais fait. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, dites-nous en commentaire, envoyez-nous un courriel, ça va faire plaisir de peut-être plus se renseigner parce qu'on n'est pas vraiment des brasseurs de brettes, je crois.
Pas du tout, mais j'ai un ami qui trippe vraiment sur les brettes. Puis généralement, quand j'ai quelqu'un de proche qui trippe, j'essaie toujours de m'intéresser à leur passion. Et que j'ai été chercher une bière brette au pissenlit et j'ai un blanc de savoir c'est qui était la microbrasserie. C'était vraiment phénoménal.
Bien, ce serait peut-être le fun d'en déguster des bières brettes ensemble. Pis,
j'ai vraiment trippé.
Donner notre avis. Puis si on n'aime pas, au pire, on mettra juste pas la compagnie d'avant si on n'aime pas la
oui,
bière.
Oui, mais c'est une question. Là encore, là, c'est une question de personnel parce qu'on va toujours, on a dit toujours qu'on fait la part des choses entre une bière manquée et une bière qui n'est pas à notre goût. Parce que la deuxième brette que j'ai goûtée était sur un fond de moût de prune. C'était puissant, là. Mais je n'étais pas habitué à ça, mais la qualité était vraiment. Pour ceux qui trippent ces brettes, avec prochain podcast, je vais essayer de retrouver les bières que j'ai dégustées. Parce que c'était souvent dans des barriques vieillies pendant un an, puis ensuite, ils coûtaient cher, ces bières-là.
Puis en plus de ça, mais présentement, il n'y a plus de commanditaires à part le laboratoire du brasseur ici, puis le brasseur.
Merci, le laboratoire du brasseur.
Oui, on va avoir des petits cadeaux. On a Impérial qui nous avait laissé des cadeaux, mais on n'a jamais eu le temps de faire des choses comme ça. Fait que le prochain podcast, on va regarder les cadeaux qu'on a, puis on va essayer de vous en faire profiter. Puis j'essaierai aussi de vous placer là, un petit cadeau du brasseur quelque part là-dedans ou du laboratoire là, pour agrémenter votre écoute du podcast. N'oubliez pas qu'on a tout le temps notre Patreon qui est disponible ou adhérer sur Facebook, aller lire les différents niveaux. Même si vous prenez le niveau numéro 1, ça fait quand même du bien de recevoir une petite parti. Fait que ça nous donne l'opportunité, après quelques mois, s'il y a quelques personnes qui vont chercher ce niveau-là, d'acheter du nouveau matériel, de payer les studios d'enregistrement, de payer la musique, de payer les logiciels de montage. Tu sais, ça coûte quand même, malgré qu'on n'en a pas fait...
On s'en excuse.
Ouais, ça coûte quand même des sous à tous les mois, autant pour la musique que pour les podcasts, les mettre sur un feed, autant que le YouTube qui va nous donner des petits sous, des miettes. Mais on essaie de tout le temps améliorer la qualité en achetant des nouveaux micros, des nouveaux podcasts. Okay, des
pour ceux qui peuvent nous encourager, ouais, Fitz va être extrêmement reconnaissant. Et en même temps, ça va vous permettre de vouloir en faire d'autres, de vouloir avoir la motivation et l'intérêt que vous avez.
Puis acheter des bières, parce que là, comme qu'on disait, là, on les paye de notre poche, les bières. Fait que je sais que c'est pas beaucoup des fois, mais ça fait beaucoup de choses à payer de ses poches. Les caméras, les lumières, les logiciels, les affaires-là. Fait que le petit 2$, ça va permettre de parler de d'autres choses, puis de pas juste parler des bières qu'on fabrique nous autres mêmes. Pour les tests, je sais que cette année, on était supposé de faire des bières tests. on n'a juste pas fait de podcast. On n'a pas vraiment menti. C'est pas qu'on n'a pas fait les bières tests, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de faire des podcasts et les bières tests. Ça va venir. On veut en faire ici au brasseur. On va en faire aussi au laboratoire du brasseur. On va en faire avec Kev en arrière. On va essayer de faire des tests de levure, des choses comme ça. Mais pour les gros tests de levure, comme qu'on avait dit qu'on voulait faire, des comptes de levure, ces choses-là, ça va être seulement sur le Patreon. Fait qu'on va en parler en podcast, on va vous expliquer certaines choses, mais le gros détail, surtout quand on va le faire, le filmage de tout ça, ça va être vraiment fait pour le monde, qui soit qui s'adhère à Facebook ou le Patreon. Puis en podcast, ben on va peut-être plus discuter de notre expérience qu'on a eue, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé.
Fait que restez aussi à l'affût des réseaux sociaux au mois d'octobre avec les tests de faux goût que Fitz va pouvoir faire. Fait que ça fait toujours partie d'une connaissance qu'on a besoin de se renouveler parce que c'est pas tous les jours qu'on goûte les faux goûts ou on est capable de les identifier aussi. Fait que plus que vous avez cette connaissance-là, plus que vous allez trouver comment corriger ce type de faux goût que vous allez avoir. Donc, regarde, au mois d'octobre, il va y avoir, je sais pas combien de places. 14 places.
14 ou 10, ça va dépendre. Il faut que je regarde mes fioles, c'est combien de litres, parce qu'il faut quand même les goûter, malgré qu'on les crache le 3/4, parce que c'est des fous.
C'est pas bon.
il faut quand même avoir une petite quantité de boissons. Fait que je pense que c'était 10 personnes là, qu'on avait fait la dernière fois, puis c'était comme juste idéal. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, restez à l'affût sur Facebook, sur Instagram, sur Véro. T'as-tu Véro?
Non, j'ai pas Véro. Je connais même pas Véro.
Tu connais pas Véro?
Je connais pas Véro.
Véro, c'est le nouveau réseau social. On a fait ce brasseur puis le laboratoire du brasseur dessus. Véro, c'est le nouveau Instagram sans algorithme. Fait que quand tu dis que tu suis ton Kev Enfu, s'il est là-dessus, ou Fitz le brasseur ou le laboratoire du brasseur, on va sûrement faire aussi le brasseur dessus. C'est que vous allez voir vraiment le feed d'actualité sans avoir de publicité ou d'algorithme super hot qui vous dit « Tu devrais acheter au laboratoire du brasseur. Tu devrais acheter une gamelle pour ton chien. Tu devrais acheter une caméra vidéo. » Fait que c'est vraiment cool. C'est un nouveau feed 2015, mais qui, avec les algorithmes, avec Metas, Facebook, qui aide tout le monde, c'est revenu à la mode. Puis il y a beaucoup de photographes qui utilisent ce genre-là. Puis tu as aussi des vidéos. Tu as plein de choses. Fait qu'allez vous abonner à Véro. On va vous mettre le lien dans la description du vidéo. Puis Kev, il va être obligé d'aller chercher le Véro pour avoir...
Allez, j'ai un Instagram juste en cause de Kev en fût.
Tu vas avoir aussi un Véro aussi, ça va être vraiment nice.
Je recommence à brasser pour faire des photos. Là.
Fait que tu vas brasser, je vais brasser. Fait que kev.en.fu
sur Instagram et Kev en fût sur Facebook.
Puis le reste, vous le connaissez, le brasseur, Fils de brasseur, laboratoire du brasseur sur Facebook, Instagram. Vous avez fait ce brasseur puis le laboratoire du brasseur sur Véro. Vous avez fait ce brasseur, le laboratoire du brasseur sur TikTok. Vous avez Fitz tout court.
Puis
le brasseur sur YouTube. Le nouveau podcast, qu'est-ce qu'on boit, qu'on parle un peu du bar ici, des nouveautés, des tests de bière qu'on va faire et tout. Et on a aussi le brasseur sur... Ouais, hein, c'est beaucoup, hein? Le brasseur sur YouTube. Puis d'ici là, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ça fait du bien de retrouver mon ami Kev.
Vu qu'on se voit plus.
Je suis venu 3 fois chez vous.
Mais... ça comptait pas, là.
Je suis allé te porter ton stock que tu m'as passé, mais je suis allé chez vous quand même.
Il n'est pas passé, il n'est même pas rentré à l'intérieur de la porte.
Au moins, c'est un premier pas vers chez Kev. Je vous dis, je pense que quand on va aller chez Kev, je vais faire des posts sur tous les réseaux sociaux que j'ai pour prouver à tout le monde que je suis allé. Ciao tout le monde.
Bonne grâce.